Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre bien. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Aurélie a grandi au sein d'une communauté religieuse, à part, soudée, mais aussi très surveillée. Elle a connu le porte-à-porte pour prêcher en famille les convictions des témoins de Jéhovah, que certains dénoncent comme étant une secte. Une enfance heureuse, mais conditionnée dans cet environnement où l'on craint une fin du monde imminente. Depuis petite, Aurélie a toujours voulu fonder une grande tribu et c'est ce qu'elle a fait rapidement après son mariage à l'âge de 19 ans. Après l'accouchement, elle part s'installer à Paris avec sa petite famille et découvre un autre monde, pas si mauvais finalement. L'arrivée rapide d'un deuxième enfant les conduira à se rapatrier à la campagne au sein de leur congrégation et ses nouvelles responsabilités de mère l'amènent à prêcher deux fois plus pour protéger ses enfants. Sa troisième grossesse arrive brutalement suite à un retour de couche après seulement 3 mois, chose qu'elle ne vit pas bien du tout. Entre pression et soutien de la communauté et frisant le burn-out maternel, Aurélie s'éloigne du système religieux pour s'occuper de ses 3 enfants. Et c'est l'arrivée de sa fille 2 ans plus tard qui va donner à Aurélie l'élan pour enfin sortir de cette communauté qui l'étouffe. Mais tout cela a un prix, celui de couper les ponts avec l'intégralité de sa famille. Dans cet épisode, Aurélie nous éclaire sur les pratiques des témoins de Jéhovah, pourquoi les études et la maternité ne sont pas forcément encouragées, comment elle a vécu ses 4 grossesses, comment elle est sortie de cette communauté et comment s'organise sa nouvelle vie seule avec ses 4 enfants sans plus aucune racine. Bonne écoute. Bonjour Aurélie.
Salut.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Ben, merci de m'avoir invitée.
Alors, tu es la maman de 4 enfants. Quel âge ils ont ?
Alors, le plus grand a 11 ans. Alors, ça fait 11 ans, 9 ans, 8 ans, 6 ans.
Ok.
4 enfants en 5 ans.
Pas mal.
Ouais.
Alors, toi, tu as une histoire un peu particulière dans le sens où tu as grandi au sein d'une communauté religieuse.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toute cette expérience depuis ton enfance ?
Alors, je vais commencer par la fin. J'en suis sortie il y a 3 ans.
Mm-hmm.
Gros changement de vie. En quittant ma famille, la communauté et un divorce.
Ouais.
Et puis j'ai recommencé tout de zéro avec mes 4 gamins.
Ouais.
Donc voilà. Du coup, comment je me suis retrouvée là-dedans ? Par la force des choses, parce que c'est mes parents. Mes parents y étaient depuis, ils avaient, je sais pas, 20-25 ans. Et donc eux, ils le sont devenus. Mon père était de confession catholique, ma mère était athée, ouais. De famille athée. Et donc, ils ont été prêchés du porte-à-porte, quoi. Les témoins de Jéhovah, ils font du porte-à-porte. Et c'est comme ça qu'ils ont été convertis.
D'accord.
Donc, ils y sont allés de leur plein gré. Ils y sont encore. Je crois qu'ils y sont bien.
Ouais.
Et donc, mes frères et sœurs, on est 5, on est nés là-dedans. Donc ça, c'était notre normalité. Ce qui est étrange pour la plupart des personnes qui nous appellent une secte ou... Ouais, qui trouve qu'on a des pratiques un peu étranges. Et nous, c'était notre normalité. Donc j'ai grandi comme ça. Je savais que j'étais un petit peu différente sur certaines pratiques, mais quand je voyais que mes copines musulmanes, par exemple, qui avaient une culture un peu différente, des pratiques différentes, je me disais, bon, moi aussi, quoi.
Mmh.
Rien de spectaculaire.
Ouais. Quelles sont ces pratiques un peu différentes ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a de particulier finalement ?
Ouais, alors je vais sûrement oublier des choses, hein. Ça va être grossier et voilà. Les pratiques. Alors, je vais essayer de à la fois dénouer des nœuds dans l'image que les gens se font de nous, et puis rétablir un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc on vit en communauté dans le sens où on vit pas ensemble. Il n'y a pas un endroit où on se retrouve et tout le monde a son logement. Ça va pas du tout. On a nos petites maisons comme tout le monde. On travaille à l'extérieur. Donc il y a de fortes probabilités pour que chacun ait eu un collègue témoin de Jéhovah un jour. Parce que c'est des gens normaux, quoi. Ils vont travailler à l'extérieur. On fait des études, mais pas trop.
D'accord.
Ça, c'est un point super important. J'en reparlerai peut-être après. Donc, nous, on fait des études. Je dirais que la normalité, c'est d'aller jusqu'au bac plus 2.
Ok.
En gros, pour avoir un job, quoi. C'est quand même important de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. C'est une valeur très forte, la famille. Donc voilà. Donc, on fait des études. Donc, vous en avez forcément croisé à l'école aussi. Peut-être sans le savoir, parce qu'ils sont assez discrets. Ça se voit généralement quand il y a un anniversaire. Ils se mettent en retrait. Donc en fait, ils vivent en communauté dans le sens où ils vont travailler à l'extérieur, ils vont aller étudier, mais par contre, sur leur temps de loisir, ils fréquentent pas les gens du monde.
D'accord.
Comme ils les appellent, c'est les gens du monde. Tout ce qui va être fréquentation, vraiment amitié, loisir, etc., ça va être les gens de la communauté. C'est très important de pas avoir de mauvaise fréquentation.
Mmh.
Voilà. Donc, à l'époque, quand j'étais petite, on se retrouvait 3 fois par semaine. Donc, c'était des réunions dans la salle du royaume. C'est pas une église, c'est une salle du royaume. C'est très épuré, c'est comme une salle polyvalente. Il n'y a pas d'image de Dieu ou de Marie ou quoi que ce soit. C'est une salle polyvalente, très, très simple, avec des fleurs. Voilà. Et donc, on se retrouvait 3 fois 2 heures. Le mardi soir à 19h, le jeudi soir à 19h. Puis après, le week-end, c'était soit le matin, soit le soir. Mais du coup, c'est très prenant.
Mmh.
C'était 6 heures de réunion, plus on traîne, on discute entre nous. Donc ça nous fait rentrer assez tard. Et puis, il y a la prédication. Donc le porte-à-porte, ou le prêche, comme certains l'appellent. Normalement, on est encouragé à y aller au moins une fois par semaine.
À partir de quel âge?
Alors ça, il n'y a pas de normes. Mais les parents emmènent les enfants depuis de la naissance, on va dire. Ils y vont avec la poussette.
Ah oui, d'accord.
Et donc, en fait, c'est une pratique normale pour un enfant d'accompagner ses parents. C'est leur activité et les enfants vont avec les parents, quoi. Voilà, donc ils sont à côté, ils participent pas forcément, mais ils sont là. Ça rentre dans la tête.
Ah
ouais. Voilà. Donc, ça, c'est pour les pratiques. Il n'y a rien de bizarre, je dirais. Il n'y a pas franchement de dérive. Je trouve... De l'intérieur, j'ai toujours trouvé ça très sain. J'ai jamais vu une maltraitance ou de choses sur les enfants. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein, parce que c'est des humains. Donc, comme dans toutes les familles ou comme dans toutes les sociétés ou toutes les religions, forcément, il peut y avoir des problématiques, mais c'est pas une dérive qui est tolérée ou qui est encouragée ou qui est courante.
Mmh.
Voilà. Donc je dirais que par rapport à ça, c'est très familial, relativement sain. C'est des gens très gentils. C'était ma famille,
oui, en
fait. Parce que, en gros, une congrégation, donc une église, une paroisse, je sais pas trop comment on dit en catholique, enfin un groupe de personnes qui se réunissent dans une église toutes les semaines, quoi. Donc nous on appelait ça une congrégation, c'est 100-150 personnes. C'est la moyenne dans toutes les villes, voilà, c'est des groupes de 100-150 personnes.
D'accord.
C'est par rapport à la salle aussi, voilà. Mais on grandit avec ces gens-là. Donc c'est des tontons, des tatas, d'ailleurs on les appelle comme ça, hein.
Oui.
Quand on est petit et quand on grandit avec ces gens-là, on les appelle tonton, tata. Leurs enfants sont nos cousins éloignés parce qu'on est tout le temps fois enfants, donc c'est nos amis d'enfance, donc on grandit avec, on a tous nos souvenirs. C'est une grosse famille en fait, qu'on retrouve toutes les semaines. Ce qui n'est pas donné à toutes les familles en plus.
Et
donc
oui,
on est relativement soudés. Donc j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Enfin, je me sentais pas malheureuse. Tu vois, j'étais entourée, beaucoup d'amis, avec un petit malaise depuis petite. Je sentais qu'il y avait un truc.
Ah ouais?
que j'avais pas forcément ma place, mais j'avais envie de l'avoir. Du coup, j'ai mis les bouchées doubles et j'étais un peu plus volontaire que la moyenne parfois, pour aussi prouver à papa que j'étais sur les bonnes traces de mon père.
Quoi. Ouais.
Et puis, je suis la dernière de la fratrie, donc 5 enfants. Et mon père et mes frères ont des responsabilités dans la communauté. Donc, il y a forcément une hiérarchie pour que tout se passe bien. Et donc deux de mes frères et mon père ont de très grosses responsabilités. Donc, en plus, il y avait vraiment la pression sociale du groupe où la famille Intel, ça se tenait à carreau, quoi.
Ouais.
Et donc, j'avais vraiment envie de rendre mon père fier, quoi. Donc, j'essayais d'être un parfait petit soldat.
Mmh. Et alors, tu disais que vous faisiez des courtes études, que c'était un petit peu fait exprès.
Ouais, alors les courtes études, ouais. Alors, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce qu'en 3 ans, je prends du recul. Et je comprends certains modes de fonctionnement du groupe. Pourquoi ça se passe comme ça. Dans le groupe, tout a une explication religieuse. Et quand on sort, on se rend compte que c'est aussi peut-être un peu de la manipulation pour que tout le monde reste bien dans le groupe et ne dépasse surtout pas. L'uniformité, c'est hyper important. Tout le monde pense pareil, les valeurs sont pareilles pour tout le monde. Et dès que tu bouges le petit doigt, tac, rappel à l'ordre.
Oui.
C'est hyper intrusif. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait péter un câble et je suis partie. C'était trop intrusif pour moi. Et donc, les études, on est encouragé à d'être excellent aux élèves. C'est hyper important de rendre fiers nos parents, mais aussi de rendre fiers Dieu. Comme on est le peuple de Dieu, il faut être presque parfait, on va dire. Et qu'on puisse dire à l'école ou au travail, ah ouais, lui c'est un témoin de Jéhovah, mais nickel quoi. Un exemple. Donc à l'école, on est plutôt des bons élèves. Mais par contre, dès qu'on veut passer aux études supérieures, alors pour mon cas, j'ai pas fait d'études supérieures du coup, pour un tas de raisons. Mais je me souviens que j'ai des amis qui avaient des grosses capacités et qui voulaient être ingénieurs ou avocats, etc. Et là, il y avait des petits changements. Ils passaient devant un comité d'anciens, donc qui est le comité religieux, enfin comment on appelle ça, les chefs du groupe, pour vérifier les motivations. Parce que une des croyances qui formate tout dedans, c'est que c'est bientôt la fin du monde.
Ouais.
C'est bientôt la fin du monde depuis 100 ans avec eux. Et peut-être, hein, on verra bien. mais ils vivent comme si demain, c'est Armageddon, en fait. Et donc, pas d'ancrage possible dans cette vie-là. Pourquoi perdre son temps à être matérialiste, à faire des études, et ensuite à aller juste gagner sa vie, alors que l'important, c'est d'aller prévenir les gens que c'est bientôt la fin du monde. Et donc, ils parlent de carrière religieuse, de carrière spirituelle, un truc dans le genre. Comme quoi, le travail, c'est bien, mais c'est juste alimentaire. Et donc, quand on veut faire des études, ils nous disent, mais c'est quoi tes motivations, du coup? C'est quoi ta priorité? C'est Dieu ou c'est l'argent? Alors, ils pourront pas interdire, évidemment, mais il y a une telle pression. Il y a une telle pression, dont on ne se rend pas compte quand on est dedans, que si on n'a pas des bonnes raisons d'y aller, on n'y va pas. Ça décourage. Donc il y en a très peu qui font de grandes études, mais la vérité c'est aussi que des étudiants, et alors j'en ai croisé, des jeunes qui sont partis de la communauté, généralement c'était pendant les grandes études, parce qu'ils se font des potes à l'extérieur, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une façon de penser, qu'il y avait peut-être un petit peu trop de pression, enfin plein de choses, où ils tombent amoureux et on peut pas se marier avec quelqu'un qui est hors de la communauté, c'est pas possible. Donc il y a plein de choses qui font que les études c'est un vrai danger si on veut garder des moutons. Mais ça, à l'intérieur, on le sait pas. Les raisons, c'est la carrière spirituelle avant tout. Donc voilà, c'est le début du formatage, ça.
Et toi, t'as rencontré ton mari de l'époque, du coup, au sein de la communauté?
Ouais, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Et puis après, je me suis mariée à 19 ans.
D'accord.
Mais parce que pas de sexe avant le mariage, pas de vie commune avant le mariage. Donc en fait, si on a envie d'avoir une vie un peu normale après 18 ans, c'est un peu le mariage obligatoire. C'est violent quand je dis ça, hein. C'est pas du tout le cas. Personne n'est obligé de se marier. Mais si on a envie d'avoir la vie de tout monsieur et madame tout le monde, c'est quand même une étape à passer.
Parce que t'es surveillée pendant toute ton adolescence, justement.
Ah ouais. On se retrouve jamais avec un garçon tout seul. Même pendant les fréquentations avant le mariage, il y a un chaperon.
Ah oui.
Tu sors jamais toute seule avec ton chéri. Ouais. Mais tout est très, très surveillé. On peut avoir une visite d'ancien à tout moment pour n'importe quoi. Un film qu'on allait regarder qui finalement n'était pas très, très catholique. Mais Harry Potter n'est pas catholique. Hein.
Ouais.
Il y a de la magie, donc on ne peut pas regarder Harry Potter.
D'accord.
On ne peut pas écouter Mylène Farmer parce qu'elle fait du spiritisme. On ne peut pas regarder la violence parce que c'est de la violence. Donc il n'y a pas grand-chose qui est autorisé finalement. Les boîtes de nuit, n'en parlons pas. les loisirs sont vraiment très très restreints. Et si on a le malheur de mettre le doigt à un moment donné pour voir si ça brûle, on se fait rappeler à l'ordre tout de suite. Il n'y a pas du tout d'intimité. Il y a tellement de pression. Il y a la peur de la mort. Et ça, je le perçois de plus en plus. J'avais vu une hypnotiseuse il y a 2 ans qui m'a dit « Mais t'es terrorisée par la mort. » Bon, non, pas tant que ça. Tu vois, je me réveille pas en me disant « Mince, mon chéri va mourir. » C'est pas un truc... C'est pas un truc qui me bouffe. Mais par contre, c'est vrai que j'ai grandi avec la peur de la mort. Si je fais une bêtise et que je me repens pas, je vais mourir. Enfin, je passerai pas au paradis. Mmh. Tout est chantage par rapport à la vie et à la mort. Voilà. Si tu fais une erreur, t'es exclu du groupe. Si t'es exclu du groupe, tu passeras pas au paradis.
Donc vous vous mariez à 19 ans. À quel moment vient le sujet de la parentalité, le désir d'enfant?
Alors ça, c'est drôle parce que les gens qui m'ont vue avec 4 enfants très jeunes m'ont dit tu fais partie de tel groupe, ou t'es juive, ou t'es mormone, ou... Et non, pas du tout. Non, j'étais témoin de Jéhovah. Mais c'est pas un truc qui est encouragé.
La maternité?
Alors, non. Non, c'est pas encouragé. C'est pas découragé non plus. Hein. Mais comme c'est les temps de la fin, qu'on va bientôt passer à l'étape supérieure, et que donc il y a bientôt Armageddon, c'est un peu de la folie de faire des enfants dans ce monde-là. Après, à chaque fois que j'avais un enfant, la communauté était très contente avec moi, bienveillante, etc. Mais ça, par contre, c'est un préjugé qu'on a et c'est pas du tout encouragé. Les femmes ont le droit de prendre une contraception.
D'accord.
Voilà. Ma sœur n'a jamais eu d'enfant. Ma nièce, visiblement, n'en aura pas. Enfin, ça, c'est un choix personnel. Je suis un peu folle d'avoir fait des enfants dans ce monde-là, moi.
Ouais.
J'étais déjà perchée. Non, j'avais vraiment envie d'avoir une grande famille. Et je voulais 6 enfants. Mais ça, c'était un rêve de gamine. Donc.
Et comment la décision est venue alors entre vous
Il avait envie d'avoir des enfants aussi. On travaillait tous les deux. On était mariés.
Donc, t'avais quel âge à ce moment-là?
Pour le premier, j'avais 20-21 ans.
Ok. Alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Ça va, très malade, beaucoup de nausées, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a déménagé à Paris. Et c'est là où finalement j'ai commencé à m'éloigner. On a changé de communauté, enfin de congrégation du coup, donc j'étais pas dans la congrégation dans laquelle j'avais grandi, donc je me sentais pas obligée d'y aller.
Mmh.
Ouais, je me sentais pas obligée d'y aller. Ils me connaissaient pas, donc voilà. C'est peut-être là où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la pression.
En devenant maman et en déménageant, du coup.
Ouais, en me disant, ceux-là, ils me connaissent pas, donc ils viendront pas me chercher des noises, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on a découvert les sorties, les copains hors de la communauté. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça va, ils sont normaux, ils font pas des trucs mal, tout va bien pour eux.
Ouais.
Ils sont pas bizarres, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à m'éloigner. Petit à petit. Et puis, donc le premier est arrivé.
Donc un petit garçon.
Est-ce
que tu t'es sentie tout de suite à l'aise, toi, dans ton rôle de maman?
Ouais, je dirais ouais.
Mmh. Parce que jeune maman, pour le coup.
Ah ouais, mais ça, c'était une volonté, quoi. C'était essai bébé, arrêt pilule. Il est attendu, ce bébé. Donc, non, j'étais à l'aise. Découverte aussi, hein. On écoute les médecins.
Est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce que toi, t'allais lui transmettre ou c'était évident que cet enfant vivrait au sein de la communauté?
Ouais, la question s'est pas posée au début. Il ferait partie de la communauté. Il y avait des valeurs très... Il y a de très belles valeurs. Hein. Mm. C'est des gens qui volent pas, qui mentent pas normalement, qui ont quand même une bonne éducation, ils sont polis. Il y a de très belles valeurs. Assez sécuritaires, d'ailleurs. Enfin, on divorce pas pour un oui ou pour un non. On trompe pas son conjoint. Non. Donc c'est quand même des trucs hyper rassurants et ça m'allait très bien que mon enfant grandisse dans ce milieu-là.
Ouais. T'allais toquer aux portes avec ton bébé?
Est-ce que j'allais toquer aux portes avec mon bébé? Ouais, j'ai dû le faire.
Ouais.
Ouais. Pas beaucoup à l'époque, parce que j'y allais pas trop. Mais plus tard, j'ai dû aller prêcher avec mes enfants. Ouais. Ouais, je sais, c'est un truc à chaque fois quand les gens me racontent, sérieux, tu le faisais ça? Je crois que c'est la pratique la plus bizarre qui marque vraiment les gens. Mais c'est, en plus, c'est pas naturel, hein, tu sais. Enfin, on prend vraiment notre courage avant d'y aller.
Ouais, j'imagine, oui.
Il y en a chez qui ça va, tu vois. Et puis, la plupart, en fait, c'est pas naturel d'aller prêcher. Hein, donc, ils prennent un bol de courage avant d'y aller. D'ailleurs, avant chaque. Session de prédication, le groupe se rassemble pour s'encourager, se donner un petit peu de force et puis y aller, quoi. Donc en fait, ouais, leur crachez pas dessus, hein, parce que c'est pas facile ce qu'ils font. Ils se rendent pas compte qu'ils paraissent un peu fous, mais... mais ouais, non. Et moi, ils me font un peu de peine. Ouais. Bon, bon.
Et alors, vous décidez de faire un deuxième bébé assez rapidement par la suite?
Alors, je suis atteinte, j'aime bien dire ça. Non, je suis hyper fertile.
D'accord.
Donc, c'était pas organisé. Il est arrivé un petit peu tout seul, malgré la contraception. Mais comme on en voulait 6, de toute façon, je les voulais avant 30 ans. Donc, bon, et on était contents. Donc, voilà. J'ai eu mon deuxième. Par contre, la vie parisienne nous allait plus du tout. Les loyers sont super chers. Je trouvais les gens très agressifs. On avait envie de changer de vie. Donc, on est revenu à la campagne vers papy et mamie. Parce qu'on avait aussi envie qu'ils voient les petits-enfants grandir. Et forcément, on est retourné dans notre congrégation. Et donc là, on est redevenu assez pratiquant. Bon, par la pression. Et aussi par la peur. Où il y a eu un moment, je me suis dit, si je m'éloigne trop et qu'Armageddon arrive, on en revient à la peur de la mort. Mon enfant va mourir par ma faute. Et c'est un truc qui m'a terrorisée pendant plusieurs années, ça.
Oui, puisque là, tu étais responsable de deux petits.
Ouais. Que même si ça m'allait pas, même si j'avais plus trop envie d'y aller, est-ce que le sacrifice en valait pas la peine pour protéger mes enfants? Donc ça m'a tenue et ça m'a remis dedans.
Donc comment s'organise la vie de maman au sein de la communauté? Est-ce qu'il y a des choses particulières
Est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, pas spécialement.
T'avais des amis, toi, qui avaient des enfants aussi?
Non, parce que j'étais jeune.
Ouais.
Et ils n'étaient pas tous mariés, mais mes amis. Ou ils commençaient à se marier. Donc j'étais la première du groupe à avoir un enfant. Ça ne nous empêchait pas que nos potes viennent à la maison, voilà. Mais j'avais pas franchement de référent maman. Après, la maternité dans la communauté, les gens, ils prenaient le bébé de temps en temps pour me relayer, pendant les réunions. Non, ça se passait bien. On est entourés, en fait.
Ouais.
Donc, ça fait une grosse famille. Donc, non, la maternité, je l'ai pas mal vécue.
On te donne pas un code de transmission pour les enfants? C'est quelque chose qui se fait naturellement?
Alors, on nous encourage à leur lire la Bible. Il y a des petits bouquins qui sont édités. La Bible, un peu pour les nuls, tu sais. Enfin, pas pour les nuls, mais avec des images. Voilà. Pour l'histoire du soir. Tu viens avec tes enfants à la réunion, donc il faut qu'ils soient bien habillés. Il faut qu'ils apprennent à être sages, à écouter. Alors, mes enfants sont sages, hein. Tu les emmènes n'importe où, tu les entends pas. C'est un truc fou. Ça, c'est un truc qui est resté. C'est un truc que je garde aussi parce que c'est trop pratique. Mais ouais, ils sont, et à partir de 2 ans, ils sont capables de rester, pas forcément assis, mais en tout cas à une place, en silence pendant 2 heures pour respecter. Pas personne ne parle, il y a un grand silence, il n'y a que, la personne qui fait un discours, quoi, qui fait du bruit.
Ouais.
Donc les enfants doivent être sages. Si un enfant est pas sage, tout le monde regarde les parents en mode pff, ils ne savent pas éduquer leur gamin, ceux-là.
Mmh. Oui, t'as quand même une pression.
Oui, au sein de la congrégation, il y a quand même une pression. Il y a aussi une pression du. Mais un peu comme dans une société. Hein. Mais du coup, là, c'est à plus petite échelle, donc c'est beaucoup plus fort. Si tu vas pas assez prêcher, on te regarde en mode peut-être pas trop une bonne fréquentation, celle-là. Donc il y a des clans au sein du. Il y a un, oui, un groupe populaire. Voilà, celui qui est à fond, qui a des responsabilités. Voilà. Et donc, c'est des familles à fréquenter.
Et tout le monde se surveille.
Tout le temps. Tout le temps. Tout le monde se surveille et t'as l'impression que c'est amour. Enfin, franchement, c'est pas pour faire du mal, tu vois. C'est la peur. C'est la peur pour soi, c'est la peur pour l'autre. Quand t'es au courant que quelqu'un a péché, quand tu grilles un de tes potes au lycée qui a embrassé une fille du monde, par exemple, bah, tu portes sa faute avec lui si tu te tais. Et donc la démarche, c'est tu vas le voir et il est obligé d'en parler à la congrégation. Et puis s'il veut pas le faire, toi t'es obligé de le faire. Alors t'es pas obligé de le faire, mais ramasse ta conscience derrière. C'est horrible, t'en fais des cauchemars la nuit. Hein.
Ouais.
Ouais. Donc ça m'est déjà arrivé de balancer mes potes. Pas parce que je voulais leur faire du mal, hein, mais parce que j'avais peur pour moi et pour eux. Ouais, c'est une vraie situation. Donc à partir de là, soit tu sais très bien te cacher et avoir une double vie, soit tu te tiens à KO. Mmh. C'est sûr, mais la pression, elle est tellement forte que les gens se tiennent à carreau. Quoi.
Donc toi, tu retournes, à, tu disais, donc à la campagne, au sein de ta communauté, ouais. De ta congrégation. T'as tes 2 enfants, un 3e qui arrive dans la foulée.
Retour de couche, bim.
Ah, oui.
Je crois que je suis tombée enceinte. Nono avait 3 mois.
D'accord.
Ça, je l'ai trop mal vécu. Ouais, ça, je l'ai mal vécu.
Ah oui.
Ouais. J'ai annoncé ma grossesse à 5 mois. Heureusement que ça se voyait pas, en pleurant. J'avais honte. Et en plus, c'était un petit garçon, donc je pouvais même pas dire « Oh, mais ça va, c'est une fille !» Non, non, j'avais trop honte de pondre comme ça.
Et comment tu l'as vécu, alors ?
Je l'ai pas bien vécu.
Ouais, c'est la 3e grossesse.
Ouais, non, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. J'ai pas pu prendre soin de moi après mon 2e. Oui. Donc je crois qu'il y a eu une petite dépression postpartum qui s'est installée. Et puis j'ai eu un enfant, un bébé aux besoins intenses. Donc c'est angoisse tout le temps. Et ouais, il faisait des crises de spasme en fait, dès tout petit, la nuit. Donc il était tout le temps à mon sein pour se calmer. Donc on n'a pas dormi pendant 2 ans quoi.
Avec les 2 autres à gérer.
Ouais, c'était une période, c'était hard. C'était super hard. Plus la pression de la communauté qui me disait « Mais tu vas pas t'éprêcher, oui, mais... » Et à un moment donné, je leur ai dit, mais en fait, je peux plus, quoi. J'ai même plus le temps de manger.
Ouais.
Mais bon, ils étaient aussi là. Alors, ils me foutaient la pression, mais ils étaient aussi là en soutien, quand même, quand j'allais pas bien. Mais ouais, cet accouchement-là, il était bien hard.
Est-ce que tu as pris la péridurale, toi, pour tes accouchements, ou c'est quelque chose qui n'est pas autorisé ou...
Si. Ah, j'ai eu. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de on-dit sur le médical. Ils se soignent, ils vont se faire opérer. Il n'y a que les transfusions sanguines, en fait, qui sont interdites.
D'accord.
Parce que le sang, c'est sacré, donc voilà. Mais bon, ça, c'est pas la seule religion où le sang, c'est sacré. Hein. Donc... Mais il n'y a que ça, en fait, qui est interdit. Et encore, il y a des méthodes... Bon, alors, en urgence, je sais que parfois, il n'y a que ça qui peut sauver. Mais après, quand c'est une opération programmée, etc., il y a plein de méthodes alternatives hein, qui existent. Et là-dessus, on est formé.
D'accord.
Voilà, on est formé. Il y a des médecins parmi la communauté qui sont là aussi pour nous aider. Mais oui, on est soigné. J'ai eu césarienne, j'ai eu forceps, j'ai tout eu, je crois. J'ai même eu la pression abdominale, tu sais, le paramétrique. Ouais. Pour le premier, j'ai découvert du coup que c'est interdit il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Mais je suivi médical, aucun problème.
Lambda. Ah, ouais, est-ce que les maternités, il y a des maternités spécifiques ?
Pas du tout.
Vous allez où vous allez, où vous voulez.
Ouais. Alors, on évite les maternités où on sait que les chirurgiens ont un problème avec la communauté. Au cas où il y a un problème de transfusion sanguine. On fait attention, enfin, et on a des notations. On sait qu'il y a certaines maternités qui peuvent nous poser problème juste parce qu'ils nous aiment pas.
D'accord.
Mais c'est très rare. En vrai, c'est très rare. Mais non. Enfin, ça m'a pas du tout impacté mes grossesses et...
D'accord.
Et le suivi médical de la famille. Ça, c'est faux.
Alors, 3 enfants. Est-ce que là, t'es toujours à fond dans la communauté à ce moment-là
Pour mon 3e, j'avais vraiment une crainte... parce que j'étais fragile en plus, je pense. J'étais terrorisée de sortir de là au cas où. Il fallait que je tienne pour mes enfants et il fallait que je leur sauve la vie.
Ouais.
Moi, toute seule, je m'en fous. J'aurais fait ma life, je serais sortie de là, j'aurais profité. Enfin, profité. On dirait qu'on fait n'importe quoi. Mais enfin, j'aurais fait ma vie sans pression.
Ouais.
Mais pour mes enfants, c'était pas possible. J'avais cette pression.
T'avais déjà, du coup, cette idée d'une autre vie possible, en fait.
Je savais qu'une autre vie était possible. Je savais pas si c'était la bonne voie non plus. Hein.
Mm.
Mais je me serais peut-être pas infligée une pression, juste pour moi. Je suis plutôt du genre, bah, je meurs, hein, tant pis.
Ouais.
J'ai pas l'obsession de la vie éternelle. Hein. Je m'en fous un peu. J'avoue, la vie éternelle, c'est pas un truc qui m'obsède. Mais par contre, me dire que je peux potentiellement impacter mes enfants et les faire mourir jeunes, ou peut-être qu'eux, ils ont envie de la vie éternelle. Voilà, donc je peux pas prendre le choix à leur place. Donc ça, c'est un truc pour le 3e qui était... J'en faisais des cauchemars.
Ouais.
Donc j'étais à fond. À ce moment-là, j'étais à fond.
Redoubler d'efforts.
Ouais, vraiment. J'étais hyper active dans la communauté. Ouais.
Mm. Et alors, 4e, petite dernière de la fratrie,
ouais.
Qui est arrivée...
Elle est arrivée 2 ans après le 3e.
Ok.
Ça va. Mmh. C'était confortable. J'avais fait bien pire avant, donc 2 ans, ça me paraissait tout à fait jouable. Ouais. Donc elle est arrivée 2 ans après, et à partir d'elle, je me suis envolée. Alors, il y a eu des choses aussi dans mon couple qui ont fait que j'ai dû reprendre les rênes financièrement.
D'accord.
Donc c'est moi qui me suis mis à travailler, donc il a fallu que je me mette à travailler très rapidement. Avec le blog, je m'étais fait un petit réseau professionnel qui m'a fait travailler tout de suite, donc c'est cool. J'ai pu travailler dans le social media très rapidement. En 3 mois, c'est bon, j'avais mes clients. Et des clients à l'extérieur. Et donc je sortais pas mal, à pas mal d'événements, rendez-vous d'affaires, resto avec les collègues... C'est un monde... Enfin, le monde de la com est quand même plutôt agréable, on va dire. Donc, je me suis fait beaucoup de contacts à l'extérieur. Et j'étais indépendante financièrement. Et j'ai pris mon envol. Je me suis vraiment éloignée de la communauté. Le groupe me... Alors, pas mon groupe, ma congrégation. Le groupe, le concept du groupe commence à me faire peur.
D'accord.
J'ai vu beaucoup de choses, l'excommunication. J'ai vu mon frère, le 4e de la fratrie, donc celui qui était juste avant moi, qui est tombé amoureux d'une fille du monde et qui est parti de lui-même. Il a donné sa démission, il est parti et j'ai vu ma famille le rejeter. J'ai vu plein de petites choses en fait comme ça.
T'avais pris quel parti toi du coup pour ton frère?
J'ai pris le parti de lui faire la gueule pendant 1 an. Ouais, je lui ai fait la gueule. Mais alors, pas parce qu'il partait de la congrégation ou de la religion, mais parce qu'il a adopté la confession religieuse de sa chérie.
D'accord.
Mais visiblement, lui, il avait fait son cheminement et il en avait envie. Enfin, il ne l'a pas fait par pression. Mais moi, je l'ai pris. Je me suis dit, mais en fait... Il se respecte pas, quoi. Enfin, il est pas capable de rester chez nous, et puis il va dans une autre religion. Enfin, il y a un truc que je comprenais pas, donc...
Ah oui, ça a dû te chambouler un petit peu.
Ouais. Donc j'ai fait la tronche pendant 1 an. Et puis après, je me suis dit, quand même, c'est mon frère, quoi. C'est mon frère, et bon, du coup, on a recommencé à discuter en dilettante. c'est un truc, ça, c'est quasiment interdit. Hein.
Ouais.
Une fois que ton frère, il est excommunié, t'as plus de contact avec. Sauf s'il y a des choses à régler, un décès, etc. Voilà, pour les choses hyper importantes, forcément, tu prends contact. Mais donc, en fait, j'étais la seule de la famille à lui parler. Enfin, bref. Et puis, il y a plein de petites choses dans la communauté qui me faisaient dire, mais... Il n'y a pas que les lois divines quoi, qui sont en train de régner, là. Il y a aussi l'humain qui fait un peu sa loi. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas.
Mmh.
Et ouais, l'effet de groupe commençait... Je commençais à ouvrir les yeux sur la pression du groupe. Et ça me faisait peur. Je me sentais très observée. Au moindre doute, etc., t'as les anciens qui débarquent. C'est vrai que t'as dit ça, c'est vrai que t'as fait ça. Alors oui, Puis si t'as fait une faute, pas de faute confessée. Puis t'es quasiment puni en public, donc tout le monde est au courant que t'as fait une connerie. C'est assez humiliant, en fait. Hein. Mais c'est ça qui les tient à carreau. Et donc, bon, j'ai un peu fait ma life, j'allais plus trop aux réunions. Et
t'en parlais de ça avec ton mari?
Oui, mais on était... Franchement, là-dessus, on était sur la même longueur d'onde. Mmh. Il en avait marre aussi, il y a des choses qui lui allaient pas. Et un jour, il y a ma meilleure amie qui vient à la maison, qui faisait partie de la communauté, et qui me dit, bon, bah Aurélie, on ne voit plus aux réunions. Je me cachais un peu derrière, ouais, mais le quatrième bébé, je suis fatiguée, et puis je travaille beaucoup, et puis voilà. Et puis je lui dis très honnêtement, et puis franchement, la communauté, moi j'en peux plus, quoi. C'est ça m'angoisse, à chaque fois que j'y allais, ça m'angoissait. Et donc, très froidement, elle m'a dit, ah ouais, donc on ne verra plus, quoi. Et je l'ai jamais revue. Non, jamais. Non, je l'ai jamais revu.
Et toi, ta décision s'est prise ce jour-là,
finalement ? Non. Ma décision, elle a été encore un peu plus... Parce que le truc, c'est que je pouvais très bien rester témoin de Jéhovah. Comme ça, j'avais le droit de fréquenter ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs. Si je prenais la décision de quitter la religion, ça veut dire que ma famille me reniait. Donc j'étais dans un entre-deux un peu confortable où je faisais ma vie. Puis en même temps, j'avais le droit de voir toujours mes parents. Il m'en fallait un petit peu plus pour rompre avec mes parents, parce que j'étais assez fusionnelle avec eux. Et il y a eu plein de petites choses après. Mon frère qui voulait se marier, qui m'appelle, qui me fait « Bon, écoute, il n'y aura personne à mon mariage, moi j'ai pas le courage de me marier tout seul. Est-ce que tu viendrais ?» Ça, c'est un truc, c'est totalement interdit d'aller à un mariage d'excommunié. Et je lui fais « Bah, ouais. » Ouais, ouais. J'entends mon frère qui me dit... Bah en gros, ma vie de famille se joue à « j'ai pas le courage d'y aller tout seul ». Bah ouais, quoi.
Ouais.
Il avait déjà un enfant. Ouais, il avait sa fille déjà. Puis sa chérie, elle mérite pas ça. Donc ouais, bien sûr, j'y vais. C'était inhumain, quoi. Enfin, ma mère qui me dit « ah bon, tu y vas ?» Bah ouais. Ouais, maman, ouais. Et je lui dis « bah tu prends tes responsabilités, toi, tu vas pas au mariage de ton fils, mais moi, je vais au mariage de mon frère, quoi. » Donc il y a eu ça. Où je me suis dit, ah, on est des monstres hein, quand même à faire ça. Et puis, donc mes copines, j'avais beaucoup d'amis à l'extérieur, et j'ai des copines qui ont débarqué pour mon anniversaire. Les anniversaires sont interdits, mais tout est interdit, Noël, Pâques, anniversaire, tout. Et elles m'ont fait la surprise de venir à mon anniversaire. Alors ça, c'est assez drôle. Et en même temps, je l'ai senti venir. Parce qu'elles ont toutes les deux une chaîne YouTube. Et elles ont filmé le week-end, parce que c'était des vlogs à l'époque. Mais en plus qu'inconsciemment, je le savais que ça allait atterrir sur Internet. Et je les ai pas prévenus
de le cacher.
J'en avais envie, je crois.
Mm.
Et donc, ce week-end-là est tombé sur Internet. Et j'ai dit à mon mari, tu verras, dans 48 heures, on va recevoir un coup de fil. Bingo. On a reçu un coup de fil des anciens. Oui, est-ce qu'on peut passer vous voir ? Et c'est ça, le déclencheur. Leur coup de fil, je l'ai vécu comme... j'extrapole. Un viol.
Ouais.
C'était hors de question qu'ils mettent les pieds chez moi et que je leur rende des comptes sur un truc qui, pour moi, c'était tellement anodin. Ça va, mes potes, ils sont venus faire un barbecue à la maison, quoi.
Mmh.
Et je me suis dit, non, il n'y a pas d'étrangers... Enfin, d'étrangers. D'étrangers à mon foyer... qui vont rentrer chez moi, me demander ce que j'ai fait, pourquoi, et qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour me faire pardonner. C'est humiliant, c'est infantilisant, c'est intrusif, enfin, tu vois, c'était impensable. Et du coup, je me suis donné 48 heures et j'ai envoyé ma lettre de démission.
Donc là, gros choix, parce que du coup, tu sais que tu vas couper les ponts avec ta famille.
Ouais, mais je m'étais préparée. Je me suis préparée sur plusieurs années. J'ai préparé mes parents aussi. Je les voyais de moins en moins. Je les appelais de moins en moins. Je les ai un peu préparés psychologiquement.
Et tes enfants ?
Mes enfants, ça n'a rien changé pour eux, parce que de toute façon, on n'allait plus réunion.
Ils n'allaient plus pouvoir voir leurs grands-parents ?
Si,
quand même.
Ouais.
D'accord.
Ah ouais. Eux, ils y sont pour rien, ils n'ont aucune responsabilité, donc ils les voient toujours.
D'accord.
Et donc, j'ai rendu ma lettre de démission, et ciao tout le monde.
Avec ton mari qui a donné aussi sa lettre ?
Ouais.
Ok.
Il m'a dit, écoute, je te suis. Et donc là, ça a été assez rapide. En une semaine, c'était bouclé. Démission. Ils ont voulu passer à la maison quand même pour discuter. J'ai refusé. Ils ont contacté mes parents, que j'avais pas prévenu. Hein. Parce que je voulais que rien ne pèse dans la balance. Donc mon père qui m'appelle, qui me dit, bon, écoute, tu peux encore réfléchir. Et je fais, toi qui es toujours en train de prêcher, etc., vas-y, donne-moi une bonne raison biblique de rester. Enfin, tiens, un déclic qui fait, c'est la vérité et j'y reste, quoi. Mmh. Et je fais, mais par contre, pas de chantage affectif, parce que ça marchera pas. Il me fait, d'accord, ok. C'est un truc qui me fait rire à chaque fois, parce que je me dis, les pauvres. Et le seul truc qu'il a su me dire, c'est, tu te rends compte que ma nièce... ta nièce se marie dans 2 semaines et que tu pourras pas venir.
Ouais, donc chantage affectif. Ouais,
la vérité, c'est que j'attendais l'après-mariage pour quitter. Je voulais être là pour ma nièce et après partir. Mais bon, ça s'est fait un peu avant. Tant pis, hein. Ça, ça a mis mes motivations à l'épreuve. Du coup, tu viendras pas au mariage de ta nièce. Et puis, tu te rends compte qu'on pourra plus être là pour toi. Mais là, tu te rends compte que c'est du chantage affectif. Donc rien d'autre, t'as aucun argument. C'est triste. Tu vas prêcher à l'extérieur pour amener des gens, mais t'es pas capable de garder les gens qui sont dans ta communauté. Bon, paf.
Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Bah ciao. Le soir, j'étais virée du compte WhatsApp de la famille. Mmh. Et puis voilà. Fin. Je suis morte et puis c'est comme ça que ça se termine.
Et donc tu disais que tes enfants voyaient toujours leurs grands-parents, tes parents. Alors comment ça s'organise
Le seul contact que j'ai avec mes parents, c'est pour la logistique des enfants.
Okay.
Donc ils habitaient à 20 minutes de chez moi. Après, en plus, je me suis retrouvée maman solo. Parce qu'en fait, avec mon mari, on s'est rendu compte que les seuls points communs qu'on avait, c'était la communauté qui nous avait liés, mais qu'en fait, on n'avait tellement rien à faire ensemble.
Ouais.
C'est quelqu'un de bien, hein, mais on n'avait rien à faire ensemble. Donc on a chacun pris nos chemins différents, 6 mois, même pas 6 mois plus tard.
Ah oui, donc là tu te retrouves...
Ah, c'était violent. C'était tous les 6 mois, je prenais une décision, mais de ouf. Donc je me retrouvais... Mais alors, je me suis jamais sentie aussi libre que le jour où je suis devenue maman solo, sans aucune pression de nulle part.
Mmh.
La seule pression que j'avais, c'était pour le boulot, de nourrir mes enfants. J'avais plus aucune pression. Ça, c'est une liberté de ouf. C'est trop bien. c'est cher, hein. mais ça, c'est... Ouais. Et donc, c'est quand même bien pratique d'avoir mes parents à 20 minutes. Ils allaient chercher les enfants quand moi, j'étais sur Paris en train de travailler. J'avais pas de nounou, donc c'est toujours ma mère qui s'est occupée de mes enfants quand j'avais besoin. Donc, ils étaient très proches de mes parents, mes enfants. Et c'était pas dans mon souhait de rompre les liens.
T'avais pas peur qu'ils les enrôlent
Alors très vite, je leur ai dit, vous avez le droit de leur expliquer les histoires de la Bible, raconter Adam et Ève, Moïse et tout. Ça fait partie de la culture française. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir les bases. Par contre, pas de pratique religieuse. Ça, c'est terminé. Ça a plutôt été pas trop respecté avec le temps. Mais au début, pas de problème, voilà. Mais bon, il venait chez moi chercher les enfants, il me disait pas bonjour. C'est violent, hein.
Ah oui.
Ouais, c'est violent. Et ouais. Et j'ai croisé, je crois, mes frères et sœurs une fois. Oui, ils me redéposaient les enfants après un week-end. Personne ne m'a regardé. Je les avais pas vus depuis 2 ans. C'est violent, mais je dis violent avec le sourire, mais je me suis effondrée ce jour-là. Je me suis dit, c'est quand même très inhumain. Et en fait, quand je suis partie, je me suis pas dit... Je suis pas partie parce que je me suis dit, ils ont tort, ou c'est une mauvaise religion, tu vois. Je suis partie parce que je me suis dit, je suis pas adaptée. J'y arrive pas. Franchement, j'ai tout donné hein, pour y arriver. J'y suis pas arrivée. J'ai trop besoin de liberté. Donc je suis pas partie parce qu'ils avaient tort, je suis partie parce que j'étais pas adaptée. Et en fait, avec leur attitude, normalement, l'exclusion, c'est fait pour que les gens reviennent. Hein, parce que normalement, t'as pas d'amis à l'extérieur, t'as pas de vie à l'extérieur. Donc, à un moment donné, tu reviens. J'en connais qui sont revenus par dépit, quoi, parce qu'ils étaient tout seuls. Mais moi, ça allait. J'avais mon chéri.
Oui, parce que t'as rencontré, donc...
Ouais, j'ai rencontré mon chéri, je sais pas, presque un an après les faits. Mon petit ange gardien.
Ah oui ?
Ouais.
Ouais, mère de 4 enfants.
Ouais, j'avoue. Au début, c'était juste... c'était tellement agréable d'être avec lui les week-ends où j'avais pas les enfants, tu sais. Ouais. C'était ma petite bulle de chaleur, bienveillant et tout. Et puis, finalement, il a pris la place. Donc ouais, j'avais plus de pression. J'étais plus toute seule, j'avais ma vie. Donc j'avais pas de pression pour y retourner. Et donc, je pouvais très clairement voir avec du recul leurs attitudes. Et il m'a dit, mais qui fait ça ? Ils nous apprennent à être polis, ils nous apprennent à être respectueux, à pas juger les autres. Bon, ça, c'est un gros fake. Et en fait, ils traitent les gens comme des chiens quand ils sortent de là. Et non, je me suis dit, ah bah non, j'y retournerai pas. En fait, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux sur cette région et qui, finalement, m'ont fait... valider ma décision, tu vois. Au lieu de me faire revenir, ils auraient peut-être pu, hein, en vrai. En étant bienveillant, plein d'amour, tu vois. Peut-être que je serais revenue, tu vois. Mais à être froid et irrespectueux, eh ben, ils m'ont fait dire que je serais pas cette mère-là. Je serais pas la mère qui serait capable de rejeter ses enfants dans 20 ans. Si mon fils est homosexuel, eh ben, tant pis. Tant mieux que j'en sois rien, tu vois. Mais je m'en fous, ça comptera pas dans la balance. S'il a envie de devenir musulman, et bah qu'il devienne. Enfin, je m'en fiche, tu vois. C'est pas la religion avant la famille.
T'en parles de toute cette histoire à tes enfants ?
Non, pendant très longtemps, je les ai protégés de ça. Parce que c'est violent. Parce que je voulais pas qu'ils aient une image négative de leurs grands-parents. Parce que j'aime toujours mes parents. Pour moi, c'est des victimes. Mais quand t'es dans le groupe, tu t'en rends pas compte. T'as l'impression d'être bien galvanisé. Mais en fait, ils sont terrorisés. Ils vivent terrorisés, mais ils s'en rendent pas compte. C'est leur normalité. Enfin, bref. Et donc, non, je voulais pas que mes enfants aient une image négative de leurs grands-parents. J'avais envie qu'ils aient... Moi, j'avais plus de parents, mais j'avais envie que mes enfants aient des grands-parents, tu vois. Et il y a pas longtemps, ça a clashé. Il y a des mots qui ont été dits du côté de ma famille pendant le week-end où les enfants étaient là. Où ça a remis en cause mon autorité parentale, où mon fils est rentré terrorisé, en me hurlant dessus, en pleurant, alors que je suis leur seule figure, enfin, il n'y a que moi qui s'occupe d'eux, enfin, tu vois, c'est... Ils mangent les papas, un week-end sur deux, enfin, je suis leur figure parentale, je suis l'adulte de référence, tu vois, donc si moi, ils ne peuvent pas avoir confiance en moi, c'est chaud, tu vois, enfin... Et donc, ouais, mon fils est rentré. J'ai mis 2 mois, je pense, à le remettre sur rail. Et où il était terrorisé, il rentrait, il se mettait à pleurer. Dès qu'il faisait une bêtise, il se mettait à prier en disant « il faut que je me confesse ». Mais alors là, je me suis effondrée parce que je me disais « génial, tout ce que j'ai voulu protéger, là, il se mettait à prier en disant « ben là, je vais mourir si je confesse pas ça à Dieu ». Tout ce que je voulais pas leur inculquer. Donc là, ça a pété. J'ai fait, bon, bah, maintenant je vais protéger mes enfants. Et par contre, j'étais obligée d'en parler à mes enfants. Là, j'étais obligée de. J'étais mise en porte-à-faux, tu vois. Il y a des choses qu'ils comprenaient pas, ils sont pas débiles. À 10, 8, 9 et 8 ans, ils doivent entendre des choses. Donc j'ai été obligée de leur expliquer mon point de vue sur la religion. Et ce que vivaient papy et mamie, sans dire, c'est, ils sont pas bien, tu vois, mais papy et mamie ont peur, et ils se rendent pas compte, et il faut pas que vous, vous ayez peur, enfin, voilà, d'expliquer un petit peu mes choix. Le grand a capté, le grand se détache de ses grands-parents, les trois autres, ils aiment tellement leurs grands-parents qu'ils les réclament, mais ils ont compris cette histoire de religion. C'est le plus important. Maintenant, je mets des limites. C'est triste d'en arriver là, quoi. Mais je crois que ça s'appelle être mère. Donc, ouais.
Alors justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Je pense que ça donne de la force. Tu vois, il y a des matins où, franchement, dans ma tête, c'est pas résolu tout ça, tu vois. C'est le bordel entre ce que j'ai vécu, la normalité. C'est en train de se ranger petit à petit. Et puis, ouais, y a des matins où c'est vraiment très très dur moralement. Et tu te dis, bah ouais, mais ils sont là. Ils sont là et la vie doit être normale pour eux. Normale et douce. Donc, tu te lèves en disant, la vie doit être normale et douce. Voilà. Donc, ça donne un objectif, je pense. Ça me permet d'être ancrée. Parce que je le suis pas sinon. Ça me fait un ancrage dans le présent. Et je me dis, j'ai ma famille. Tu vois, c'est super dur de plus avoir de racines. C'est un truc sur lequel je bosse beaucoup en ce moment. J'ai plus de racines, quoi. Tous les gens que j'ai connus mes 25 premières années, je ne les connais plus. Il n'y a plus personne. Tu vois, ma vie, elle recommence à 25-26 ans. Mon amie la plus vieille, c'était il y a 10 ans.
Ouais.
Tu vois. Et donc, j'ai pas de passé. C'est comme si tout le monde était mort. C'est assez bizarre. Mais ça me permet de me dire, j'ai quand même ma famille, quoi. J'ai 4 enfants, c'est pas rien.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman orléanaise ?
Une maman orléanaise, c'est un cadre de vie trop cool. Parce que c'est une grosse ville, il y a tous les services, il y a l'université, il y a les musées, il y a tout. Et on est en bord de Loire, alors j'ai pas le temps de t'emmener.
Ouais.
Mais c'est un cadre sauvage, il n'y a pas de voiture, c'est trop cool. On est à 3 minutes et t'as l'impression d'être au bord de la mer. C'est trop bien. Orléans, c'est trop bien.
Justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré là où t'aimes bien aller avec tes enfants ?
Bord de Loire.
Ouais.
Ouais. En plus, il y a la Loire à vélo, donc tout a été réaménagé. Donc tu vois, la petite qui vient d'apprendre à faire du vélo, c'est nickel, c'est plat, c'est nickel pour les enfants.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
J'avoue, avec le confinement, pas trop de projets. Hein.
Ouais.
On part en vacances cet été, normalement 2 fois. Donc ça va être bien, on part de la mer. Et puis les projets professionnels, j'espère pouvoir... Enfin, j'avais pas mal de projets sur le tourisme. À voir si ça se relance cette année. C'était bien parti début 2020, et puis là, j'aimerais bien recreuser ça. Donc on va voir si c'est possible. Rebosser un petit peu dans le domaine du tourisme. Ce serait bien.
Merci beaucoup Aurélie.
Merci.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 87 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.